Donc, je voulais vous montrer deux documents pour faire ma présentation. Je pensais les faire, les montrer au fur et à mesure de la discussion. Mais comme la connexion Wi-Fi est vraiment très mauvaise, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, je vais faire la présentation pour quand même le faire un peu voilà, clairement. Pour le spectacle de Ene Avdal et Yukiko Shinozaki. Pour son spectacle, pour leur spectacle qui va commencer tout à l'heure, qui s'appelle Nothing for Something. Donc voilà les deux documents que je voulais vous montrer. Le premier est un extrait du ballet mécanique de Fernand Léger. Alors j'espère que tout ne va pas mourir. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous montrer pour faire cette présentation, et puis après je vais un peu expliquer comment ça s'articule, c'est un extrait d'un film de Busby Berkeley qui date de 1934. Moi, je pourrais regarder Busby Berkeley pendant des heures. Hein. Ça s'appelle Dame, qui est un film... Bon, le film, là, je vous ai montré vraiment un extrait, mais c'est vraiment absolument incroyable parce que tout le début du film consiste en une discussion dans un bureau. Il n'y a que des hommes. C'est comme ça, très formel. Et ils décident d'organiser une... Donc, c'est des publicitaires. Et ils se demandent comment vendre un produit. Et la solution pour vendre un produit, c'est évidemment les dames. Et donc, ils se disent qu'ils vont organiser un casting. Et donc, à ce moment-là, il y a des dizaines de dames qui arrivent. Et puis, ils montrent une montre en disant que demain, on organisera le shooting à 9h. Et donc, il y a un close-up, il y a un gros plan sur le, sur le, sur le réveil. Ensuite, le réveil s'ouvre et on voit toutes ces dames en train de dormir, se réveiller à 8 heures pour aller se préparer, on les voit se baigner, etc. Et là, la partie où je vous montre, que je vous ai montré, c'est justement quand elles commencent à répéter pour vendre le produit. Je ne sais pas si vous connaissiez Busby Box. Bon, il utilise tout le temps comme ça des grandes images dans lesquelles on voit toutes ces femmes faire voilà, ces mouvements mécaniques, etc. Et donc justement, ce qui m'intéressait comme idée pour introduire, disons, ce spectacle, c'était justement de parler un petit peu de cette distinction ou opposition qu'on fait souvent entre, d'un côté, le mouvement des corps vivants et, de l'autre côté, des mouvements machiniques, mécaniques. Et généralement, on le pense justement comme une distinction de nature, parce que, d'un côté, on pense que les mouvements justement des êtres vivants vont être organiques, articulés, etc. Et que de l'autre côté, les mouvements des machines sont mécanisés, automatiques, avec certains types de mouvements. Et plus généralement, on considère aussi que les types de mouvements, donc les mouvements qui sont faits par les corps vivants, sont différents des mouvements machiniques, parce que les corps vivants ont leur propre moteur, c'est-à-dire par exemple, un animal va chasser, donc il va lui-même produire de son instinct ce désir de chasse, et c'est ce qui va créer le mouvement. Ou que nous, corps humains, nous avons des volontés, nous sommes, disons, guidés par des buts. Et à l'inverse, les mouvements des machines sont agis par d'autres, commandés. Bon, évidemment, il y a des espèces qui sont, ou des objets qui sont entre ces deux catégories. C'est par exemple l'automate, qui est justement une machine qui imite les hommes, ou quelque chose encore de plus curieux, par exemple, le cyborg. Donc le cyborg, c'est justement quelque chose qui est fait d'un agencement à la fois de quelque chose d'organique et de machinique. Donc une combinaison des deux. Par exemple, on pourrait dire, et éventuellement aussi, une machine qui est faite de bouts de corps, de corps humain, comme Frankenstein. Voilà. Mais bon, il y a quand même cette distinction qui est généralement une distinction qui est présentée comme une distinction de nature. Or, la chose est vraiment troublée à partir du moment où on se rend compte que notre perception du mouvement elle-même est liée à des machines et aux technologies qu'on utilise pour voir. Donc pour le comprendre, on peut faire une opposition comme ça, rapide, entre la manière dont Aristote a pensé le mouvement et dans la manière dont le mouvement a été pensé ensuite au 19e siècle. Donc Aristote, quand il essaie de penser le mouvement, il prend, donc dans l'Éthique à Nicomaque, il prend une métaphore qui est très claire, qui est celle de l'archer. L'archer, pour organiser ses mouvements, pour tirer une flèche, il cherche à viser la cible, et du centre de la cible, nous dit Aristote, il fait une opération logique qui consiste à revenir jusqu'à l'endroit où il est, jusqu'à son bras, et ensuite, à partir de ça, à organiser toute une série d'actions coordonnées pour lancer la flèche jusqu'à son but, pour qu'elle atteigne le centre de la cible. Voilà. Et d'ailleurs, sa conception du théâtre, elle est intimement liée à cette conception du mouvement et de l'action. Parce que, donc pour Aristote, il explique ça dans la Poétique, toutes les actions d'un drame doivent s'enchaîner logiquement, parce que comme l'action humaine est justement un enchaînement logique, eh bien le drame doit lui-même prendre cette même forme. Or, au 19e siècle, il y a une révolution totale de la manière dont on pense le mouvement, parce que justement, on invente la photographie. Et alors, je vous ai passé, peut-être qu'on peut faire face à ça. Et donc, la photographie permet de... d'accéder de manière tout à fait différente et inouïe au mouvement. Donc là, je vous ai passé une chronophotographie. Je crois que c'est de Étienne Jules Marais. Et donc voilà, Étienne Jules Marais et Édouard Muybridge sont vraiment deux photographes qui sont intéressés, qui ont utilisé l'appareil photo pour capter ce qui jusque-là était impossible à connaître dans le mouvement et accéder justement à une partie inconsciente du mouvement, c'est-à-dire à une dimension du mouvement qui n'est pas justement du ressort de la volonté, c'est-à-dire de l'organisation logique des mouvements en fonction d'un but, mais au contraire d'une mécanique qui est justement beaucoup plus complexe à saisir. Et cette manière, par exemple, transforme complètement la manière dont les arts vont concevoir à partir de là les mouvements et les actions humaines. Ça a par exemple une répercussion dans la littérature. Et par exemple, là, j'aimerais bien vous lire un extrait de L'homme sans qualité qui justement vise exactement cette question-là de la perception du mouvement. Donc l'extrait que je vais vous lire est une scène qui se passe donc, au début de L'homme sans qualité et qui est un moment où le personnage principal, Ulrich, vient de se battre avec quelqu'un dans la rue et la bagarre a tourné à son désavantage et donc voilà, il se fait après recueillir par une femme au bord du trottoir, le visage ensanglanté et une histoire naît entre eux. Bon, c'est le début du roman. Et voilà ce qu'il en dit. On ne doit pas juger à leurs résultats ces expériences de combat ou de bagarre. Voilà. Leur charme, en réalité, réside dans le fait qu'ils faillent en un très court espace de temps, avec une rapidité qui n'apparaît jamais ailleurs dans la vie bourgeoise, et en laissant conduire par des signes à peine perceptibles, exécuter un si grand nombre de mouvements divers, puissants, et néanmoins très exactement subordonnés les uns aux autres, qu'on en perd entièrement la possibilité de les contrôler avec la conscience. Bien au contraire. Tous les sportifs savent que l'on doit interrompre son entraînement quelques jours avant la compétition, et cela pour la seule et unique raison qu'il faut que les muscles et les nerfs puissent s'entendre une dernière fois entre eux sans que la volonté, l'intention, la conscience soient présentes ou interviennent dans le débat. Donc justement, là, ce que nous explique donc Ulrich, Robert Musil, c'est qu'il y a une dimension de l'action et du mouvement qui ne se laisse pas résoudre par simplement les conséquences d'une action. Mais justement qu'il y a toute une dimension qui est liée aux qualités du mouvement, au micro-mouvement, qui n'est pas perceptible par la fiction du roman bourgeois, et donc qui doit aussi produire une nouvelle littérature. Donc par exemple, chez les avant-gardes, ça a un rôle absolument fondamental, c'est pour ça que je vous montrais au début cet extrait du film de Fernand Léger, parce que dans ce film, dans le ballet mécanique, une scène qui est elle aussi une scène extrêmement classique, cette jeune fille qui se balance dans un espèce de contexte bucolique et tout d'un coup associée à des formes qui se projettent, à des parties de corps que la caméra détache, à un renversement de la caméra, donc à tout un univers machinique. Et ce que met en place Fernand Léger, c'est justement cette transformation des actions, de la perception des actions qu'on a à travers les nouvelles technologies, donc le cinéma et la photographie, qui changent complètement notre manière d'aborder des scènes classiques, qui sont par exemple donc, une scène de bagarre dans le cas de L'homme sans qualité, ou disons une scène un peu bucolique comme ça de balançoire. Donc, d'où cette idée voilà, que j'avançais au début, que notre perception, elle est produite par les objets techniques avec lesquels on interagit. Et donc, il y a notamment un concept qui a été élaboré après dans les années 60 pour décrire, disons, cette fluidité des sens, la manière dont ils sont capables de se transformer dans l'histoire et dont notre perception est capable de se modifier. Il appelle ça le sensorium. Voilà. Et donc, ce théoricien de l'information. Comment ? Non, qui est canadien, qui a écrit McLuhan. Voilà. Et disons que c'est développé aussi par toute l'école de Paolo Alto, donc McLuhan et les personnes qui sont autour de lui. Et donc, à cette époque-là, on n'assiste pas seulement à une mécanisation du corps ou à une perception mécanisée du mouvement, mais plus généralement aussi à une description de la société comme un tout mécanisé. Et c'est pour ça notamment que je vous montrais cet extrait incroyable de Mosley Bexley, où justement les mouvements des girls, tout d'un coup, à chaque fois, prennent un sens quand il est élargi à la totalité des jeunes femmes. Donc généralement, il y a la caméra qui s'élève et on voit tout d'un coup un énorme plan dans lequel la mécanique de chaque corps s'articule les uns aux autres et prend sens et l'effet, disons, est produit à partir du moment où on conçoit le tout, the big picture. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à cette époque-là. La personne qui décrit ça le mieux, c'est dans les années 20 et 30, c'est un théoricien de l'école de Francfort qui s'appelle Siegfried Krakauer et qui écrit un texte comme ça vraiment fondamental qui s'appelle L'ornement de la masse. Et disons, dans L'ornement de la masse, il s'intéresse justement à toutes ces nouvelles productions culturelles et la manière dont elles transforment la société et nos manières de percevoir. Et donc il s'intéresse notamment à ces groupes de girls qui font de la chorégraphie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à mon avis là, donc je parlais de ballet mécanique déjà pour introduire, puisque effectivement c'est une pièce de danse qu'on va voir, et je pense que c'est important que Fanon Léger appelle son film ballet mécanique, puisque c'est vraiment la perception du mouvement qui est étudiée. Et donc Krakauer, lui, parle d'ornement pour décrire ces mouvements. Et alors, le concept d'ornement est assez intéressant par rapport à la manière dont on conçoit aussi, aujourd'hui encore, une pièce de danse. Puisque généralement, quand on va voir une pièce de danse ou une pièce de théâtre, on considère généralement que c'est le théâtre, l'ornement. C'est-à-dire que c'est le théâtre qui est le cadre qui va permettre que l'œuvre agisse. La pièce de danse, ou la pièce de théâtre, ou la performance. Or, quand Siegfried Krakauer décrit le mouvement de ces girls par rapport à la société, il est décrit comme un ornement. C'est-à-dire que la pièce de danse, ou les pièces filmées de Busby Berkeley, pour lui, ne sont pas des œuvres, mais des ornements. Donc il faudrait, à mon avis, essayer, et c'est ce que je vous propose en tout cas de faire pour aborder cette pièce, c'est de tenter justement l'expérience de voir comment une pièce de danse ne peut non plus être décrite seulement comme une œuvre, mais comme un ornement. Et d'inverser donc la relation, penser comment la pièce de danse va venir orner le théâtre, va venir décorer cet espace qui est le théâtre. Voilà ce que je voulais vous dire avant le spectacle. Si vous avez des questions, hein, c'est ouvert. Je ne sais pas exactement quelle heure il est.
Comment on écrit
Krakauer.
Non. Busby Berkeley.